On dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Si je vous dis sorcière sexy, cheval foutraque, souillon féministe, horizon volcan, instinct ouvrier ou cocotier menthe, vous allez écarquiller les yeux et vous demander quels sont les liens qui unissent ces mots. Si j'ajoute un ramasse bourrier et un ami-tour, vous comprendrez sans doute encore moins. Alors autant vous dire tout de suite que nous allons vous expliquer ça et vous plonger dans un livre dont nous allons parler aujourd'hui. Le titre est énigmatique. À 5 ans, je suis devenu terre à terre. Il est publié chez Point dans la collection Le goût des mots, dirigée par Philippe Delerme, et il est sorti de la plume d'une autrice, compositrice, interprète, chevalier des arts et lettres, lauréate des trophées de la langue française et de nombreux prix musicaux, dont une victoire de la musique. Jeanne Chéral est avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
C'est une histoire ancienne et pourtant c'est dans ma tête. J'ai beau lui dire va-t'en, elle reste là. C'est un vieux souvenir, un craquement d'allumette. J'ai beau lui dire fous le camp, il bouge pas. Voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà. Elle peut pas. C'est comme une habitude, un peu comme une manie. J'aime la solitude jusqu'à la tyrannie. Viens pas me déloger de ma carapace quand j'hiberne. Ou d'avance, désolé pour mes coups dans tes lanternes. Voilà. Si seulement dans ce qu'on est on pouvait faire un choix. Seulement voilà. Elle peut pas. Voilà. Si seulement dans ce qu'on est, on pouvait faire un choix. Seulement voilà. Le type.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Voilà, c'est assez étonnant de commencer une interview par voilà et pas par voici, mais voilà, vous avez réussi à faire un choix parmi les mots que vous préférez. Ça a été dur de choisir, comment est-ce que vous avez procédé ?
Franchement, non, je dirais pas que ça a été dur parce que ça s'est fait de manière très spontanée et naturelle.
Ils vous sont venus comme ça, naturellement ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est des mots qui se sont imposés, des mots que j'adore, que j'emploie beaucoup ou pas d'ailleurs, hein, des mots qui peuvent me faire rêver, me faire réagir, me faire marrer. Et à chaque fois, je me suis mise à écrire au moment où quelque chose m'excitait un peu, un mot m'excitait un peu, me donnait envie de m'y mettre, quoi. Donc ça a été assez ludique et épidermique. Enfin, quand j'étais sur la voie d'un mot, bah, je me lançais dedans.
Alors le choix des mots, c'est évidemment crucial quand on écrit un livre, mais aussi quand on écrit une chanson, puisque vous êtes non seulement interprète, mais aussi autrice et compositrice. D'ailleurs, les mots et les notes, ça se choisit de la même façon ?
Oh, alors là, c'est marrant comme question. Je sais pas si ça se choisit d'ailleurs. J'emploierais peut-être pas le verbe choisir. C'est vraiment des choses qui s'imposent, je pense. C'est vrai que quand j'écris une chanson, en général, j'aime bien avancer sur les deux en même temps. J'aime bien écrire un texte alors que j'ai un clavier à proximité. Quand je compose, il y a toujours, si c'est pas forcément des mots dès le départ, il y a des sonorités qui s'imposent. J'ai besoin de syllabes en fait.
Donc vous faites attention à la musicalité des mots, à la sonorité, à la rime évidemment.
Oh, la rime ça peut venir dans un deuxième temps, mais ouais, non, pas forcément. Des fois je commence à composer en yaourt en fait, même en yaourt un peu français.
Alors ça veut dire quoi composer en yaourt? Parce que tout le monde ne connaît pas l'expression.
Oh si, moi non, je pense que c'est une expression qui est un peu passée dans le langage courant. C'est composer en pas forcément avec des vrais mots, mais plutôt des syllabes qui s'emboîtent et qui peuvent faire penser par la suite à des mots, quoi.
Alors entre le sens et la sonorité, bah, les deux vont pas forcément toujours de pair. Par exemple, il y a un mot que vous appréciez beaucoup, c'est le mot suicide. C'est étonnant d'apprécier le suicide, Jeanne Chéral.
Apprécier le suicide, bah c'est déjà, je trouve qu'en soi c'est un mot qui sonne vraiment, qui me charme, qui est un peu acide comme ça, et qui est un mot aigu. C'est un mot qui me parle, je sais pas, à l'arrière de la tête, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi un mot qui représente une force, une puissance, quoi. Le fait de choisir pour le coup le suicide, c'est quand même c'est faire preuve d'un certain courage, je trouve. Et je ne sais pas si c'est bien de parler de ça.
Oui, enfin, je ne suis pas sûr. En plus, en ce moment, vu l'ambiance qu'il y a en ce moment en France, c'est pas forcément peut-être
non, en même temps,
ce qui tombe le mieux. Mais bon.
Non, c'est sûr. Mais après, le sens des mots, on prend dans le sens des mots ce qu'on veut aussi. Et la force d'un suicide, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je ne suis pas du tout du genre à passer à l'acte. Mais
vous y pensez?
Ça fait partie de la sphère intime. J'imagine qu'il y a toujours dans une vie des moments où on peut être très en haut, très en bas, et forcément l'idée de la mort, il faut aussi l'accueillir, quoi. L'accueillir, l'accepter, l'idée de sa propre mort, ça fait aussi vachement apprécier la vie, quoi, de songer à la mort.
Alors suicide, on a l'impression que vous aimez bien les sifflantes quand même. Par exemple aussi, il y a le mot sorcière. Alors là aussi, le mot sorcière, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est un mot qui a pris aussi une acception assez récente, hein, et assez différente, notamment à travers le livre de Mona Chollet, dont on a déjà parlé dans cette émission et que vous évoquez aussi dans le livre.
Que j'aime énormément, Mona Chollet, une très très grande autrice. Les sifflantes, c'est quelque chose que je fuis bizarrement. C'est marrant que vous en parliez parce que dans un enregistrement ou même sur scène, quand on entend son propre son de voix sur scène, on appelle ça dans les retours, ses propres petites enceintes, les sifflantes, c'est vraiment quelque chose à chaque fois que je veux éviter, que je demande à enlever, quoi. Mais effectivement, dans ces deux mots-là, en tout cas dans le mot sorcière aussi, il y a une sorte de comme une menace. Mais c'est un mot, le mot sorcière, que j'adore parce qu'il est plein de mystères, plein de force féminine. Et puis effectivement, ça fait référence à cette œuvre, à ce livre magnifique de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui rend hommage en fait au mystère, à la science de ces femmes qu'on a accusées de sorcellerie pendant des siècles et qu'on a massacrées.
Oui, et vous rendez aussi hommage à la première sorcière de votre vie, j'ai nommé Françoise Hardy. Alors là, il faut quand même avoir un petit peu d'explication,
oui,
Jeanne Ferrel. Pourquoi la première sorcière ?
C'est la première dont je me souviens, en tout cas, c'était la sorcière d'Émilie Joly.
La comédie musicale.
Voilà, la comédie musicale de Philippe Châtel. Et c'est une madeleine pour moi, ce conte musical, mais j'ai l'impression qu'il s'est rien fait de mieux pour enfants depuis. Enfin, je suis vraiment restée collée à Émilie Joly. Je trouve que les compositions sont magnifiques. La distribution d'origine est complètement dingue. Et Françoise Hardy était la sorcière isolée dans son château, au milieu de ses alambics et de ses fioles de poison. Et j'étais totalement fascinée par ce personnage. En plus, le dessin qui la représentait la montrait très brune, très très sombre. Enfin, j'adorais ce personnage.
Alors la collection dans laquelle le livre est publié s'appelle Le goût des mots. Vous avez un rapport gourmand ou un rapport gourmet aux mots, Jeanne Ferrel?
Je crois que je dirais gourmand, ouais. Parce que peut-être que gourmet, c'est un peu plus précieux ou un peu plus gourmand. C'est comme si on acceptait tout en même temps. Je crois que je suis un petit peu comme ça avec les mots. Enfin, il y a des mots qui a priori sont pas forcément très beaux. Par exemple, le mot foutraque, mais j'adore l'employer. Vraiment, j'adore le mettre à toutes les sauces.
Oui, un mot fleuri et spontané. Écrivez-vous dans les. Qu'est-ce qui est foutraque en ce moment d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez trouvé foutraque depuis ce matin?
Ah là là. Non, mais on est au-delà du foutraque. Bon, ce qu'est foutraque, c'est l'allocution dont notre président nous a gratifié hier soir. C'est la situation. Enfin, c'est vrai que de dire que c'est foutraque, c'est aussi garder une certaine distance. On essaie de garder un esprit positif, un optimisme. C'est vachement important en ce moment de garder un optimisme, de garder un espoir, tout simplement. La situation paraît tellement catastrophique et grotesque à tous les niveaux que c'est à la fois dur et indispensable de garder le sens de l'humour, quoi.
Vous avez reconnu cette petite musique,
la
Jeanne Ferrel.
Guitare hawaïenne.
Voilà, Coco Shaker, un dessin animé des années 80. Vous l'évoquez hein, évidemment dans le livre. Qu'est-ce qu'il avait de si fascinant, ce petit programme extrêmement court, hein, ça faisait 2 minutes 30, je crois, à peu près.
Ouais, c'est ça. C'était des petits bonhommes fil de fer, tout mous, qui se disputait un cocotier dans tous les épisodes, et ça passait tous les jours. Et ce pourquoi ça me fascinait, c'est que c'était à la fois absurde et ça revenait jour après jour, un peu comme un jour sans fin. On savait qu'on allait le retrouver le lendemain, enfin retrouver ces petits bonhommes complètement ouais absurdes quoi. J'adorais ce programme quand j'étais gamine, et j'avais l'impression que ça m'emportait dans un monde un peu parallèle, un monde de où le temps n'a pas la même valeur. Enfin, je le formulais évidemment pas comme ça, mais j'adorais ce sentiment d'être hors du temps.
Et quand vous étiez gamine, grimper au sommet du cocotier, ça voulait dire quoi ? C'était un rêve de puissance absolue, une façon de dominer le monde, une façon d'être la première au sommet ?
Oh, je pense pas que je crois pas que c'était ça qui me fascinait. Non, c'était plus le fait de recommencer toujours la même tâche dans le bouquin. Ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois les fascinations d'enfants, ça n'a pas forcément une explication rationnelle, et c'est ça que je trouve magnifique dans le monde des enfants. Un enfant peut être fasciné par quelque chose qu'on va trouver complètement anodin, décalé, sans intérêt, et pour lui ça prend une dimension métaphysique. Et d'ailleurs le titre du livre, il fait un peu référence à ça. Donc c'est à 5 ans je suis devenue terre à terre, c'est une phrase qui est extraite de ce premier texte cocotier dont on est en train de parler là. J'avais envie d'évoquer le fait que la toute petite enfance pour moi c'est vraiment le lieu d'une espèce de science absolue, enfin comme si on avait accès à des choses, à des dimensions du savoir qu'on perd ensuite.
Et ce titre, à 5 ans, je suis devenue terre à terre, j'ai vu que c'était le titre d'un de vos spectacles à La Réunion. Elle est sur l'île de La Réunion, c'était la matutina.
Un de mes spectacles, pas vraiment, parce que c'est quelque chose que j'ai joué deux fois. Une fois à Vannes, en Bretagne, une fois à La Réunion. C'était en cours d'écriture, j'étais en train d'écrire ce petit livre, et j'avais eu envie de partager mes textes en cours, mon travail en cours, c'est un truc vraiment que je fais jamais d'habitude. Hein. Pour les chansons, ça m'arrive jamais de montrer des chansons en cours de travail, mais là j'avais monté un petit truc, une petite forme piano voix où je lisais quelques textes et je les intercalais avec des chansons. Je trouvais que ça se répondait. Donc j'avais pris ce titre-là. À 5 ans, je suis devenue terre à terre, et en fait, ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, bah voilà, c'est le titre de mon livre en fait.
Voilà. Et ce livre, vous l'avez dédicacé à votre ami des îles. Alors, en cherchant un peu, on se rend compte que c'est Baptiste Vignolles.
Oui, c'est bien lui.
Ça. Voilà, c'est un amoureux de la chanson française, hein. Un réunionnais d'adoption.
Ouais, réunionnais d'adoption, quelqu'un dont je suis très proche, et puis c'est lui qui m'a intronisé à La Réunion. Enfin, c'est vraiment une île que j'adore, et en partie parce qu'il y vit.
Ouais, donc c'est votre bœuf d'Alon, hein.
Ouais.
Comme on dit, alors le d'Alon à La Réunion, c'est le pote, hein, le meilleur ami, même le frère,
ouais,
au sens amical du terme. Et pour lui, vous avez même inventé un mot qui se trouve au cœur du livre, le mot ami-tour. Alors là, je m'adresse à la linguiste, Jeanne Chéral. Ça veut dire quoi, ami-tour ?
Oh, je serais heureuse. C'est marrant, je pense à Alain Rey, là, qui nous a quittés ces jours-ci. Je serais vraiment heureuse de lui confier ce mot, de savoir ce qu'il en aurait pensé.
Voilà, grand linguiste, et en particulier.
Ouais,
donc,
voilà. Qu'on salue,
éditeur
évidemment.
Du dictionnaire Robert, qui est décédé hier.
Voilà, hier. Ami-tour, c'est une contraction, hein, tout simplement, entre amitié et amour. Et c'était une manière de, je sais plus si c'est lui ou moi qui avons inventé ce mot d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vocabulaire commun. Quand on développe une amitié hyper forte avec quelqu'un, on a tout un, c'est comme un amour, quoi. On a un vocabulaire, on a un sens de l'humour commun, des références communes, des bêtises qu'on se partage comme ça. Et c'est vrai que ce mot ami-tour, il nous est venu assez vite pour parler, enfin pour s'il y avait besoin pour qualifier notre relation, notre lien. C'est voilà.
Au pied du volcan, dans mon lit de camp, je pense à toi quand tu t'endors à côté de moi. La nuit est fournaise, ta bouche une fraise, je suis comme braise, ah oui mais toi tu n'es pas là. Mes cheveux trop courts me crient au secours, je coupe toujours et dans mon crâne il y a ta voix. On est bien ensemble parce qu'on se ressemble, enfin il me semble, mais comment être sûr de ça? Mais comment être sûr de ça? Car ton squelette est léger, léger,
les 10 doigts. J'aime ce métier, tout nu tout entier. J'aime ce chantier, ce bordel autour de ma voix. Tiens, au son des flûtes, à champagne en rut. Je suis un peu pita, oui, mais je déteste ça. Sans me compromettre et sans rien promettre. C'est moi le maître, mais comment être sûr de ça? Mais comment être sûr de ça?
La peau sur les os, Jeanne Chéral, notre invitée aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Chanson, alors je ne sais pas si elle a été écrite à La Réunion, mais un petit clin d'œil à La Réunion, là, le volcan, la fournaise, le piton. Ouais.
Elle a été écrite juste après une balade un peu avortée au piton de la fournaise, justement, il était en éruption et finalement on n'a pas pu y aller, on pensait approcher, on n'a pas pu y aller.
Et donc le volcan, d'ailleurs c'est l'un des mots que vous avez choisi de mettre en valeur dans le livre. Vous allez souvent à La Réunion, moi ça me touche beaucoup parce que c'est mon île, moi je suis de l'île de La Réunion, je suis né là-bas, j'ai passé les 18 premières années de ma vie, donc si vous voulez, ça me touche beaucoup. C'est une île qui vous... Je suis né à Saint-Denis, absolument. C'est une île qui vous inspire ?
Bon bah faut croire, ouais. Ça fait à peu près 20 ans que j'y vais hyper régulièrement. Là, j'y suis pas retournée. En fait, j'ai écrit pas mal de mes disques, de mes chansons là-bas. Mon dernier album, L'An 40, je pense que pour moitié, je l'ai écrit là-bas. J'y ai des attaches amicales maintenant. Et puis j'adore y chanter, j'adore passer du temps là-bas.
Et vous évoquez quelques expressions créoles assez savoureuses. Alors petite interro, mais la réponse est dans le livre. Je vais pas vous piéger. Assurez-vous, comment on dit suppositoire en créole réunionnais?
Bah, c'est le bonbon la fesse.
Voilà, très poétique.
Hein, ah, mais j'adore.
Effectivement. Et la petite amie?
Bah, c'est la couverture pays.
La couverture pays, là aussi, c'est extrêmement imagé, hein, extrêmement poétique. Et puis, il y a une expression qui est apparemment votre expression réunionnaise préférée, c'est gros doigts. Mmh. Et là, moi, voilà, moi qui suis donc réunionnais, qui est débarqué à Paris, enfin, je vais pas raconter ma vie non plus pendant toute l'émission, mais enfin, à 18 ans, pour moi, gros doigts, c'était pas du tout une expression créole. Pour moi, c'était vraiment une expression française, et apparemment, si.
Ah, bah, moi, c'est là-bas que j'ai chopé cette expression gros doigts.
Alors, c'est quoi un travail gros doigts?
Bah, c'est ni fait ni à faire. Enfin, quand c'est gros doigts, on imagine bien, quoi. Des gros doigts qui font quelque chose de très grossier, pas tout à fait fini. Et c'est drôle parce que c'est vraiment une expression que j'ai essaimée autour de moi. Par exemple, dans mon équipe de tournée, avec mes musiciens, mes techniciens. Enfin, vraiment, quand on dit que quelque chose est gros doigts, maintenant tout le monde comprend, quoi.
Voilà. Bon, un petit Sega avec, je sais pas, Thierry Goliris ou un Maloyac, Daniel Waro, ça vous dirait, Jeanne Chéral?
Bah, j'adorerais, ouais. Avec le dieu vivant. Daniel Waro.
Mon instinct me dit que ce serait intéressant, et c'est vrai que l'instinct, c'est aussi un des mots qui se trouve dans le livre. Vous fonctionnez à l'instinct, justement, pour mener votre carrière.
Ouais, de plus en plus, ouais. De plus en plus, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la boussole absolue, la boussole la plus... Même si j'ai toujours envie de prendre des conseils, de prendre les avis des gens qui me sont chers. Pas trop d'avis différents, mais c'est toujours intéressant, mais quand même, c'est capital de se fier à son intuition, enfin de s'écouter comme un animal qui flaire quelque chose, quoi. C'est très très important.
J'ai marché autour du lac et je n'ai rien trouvé, mais qu'est-ce que je cherchais? J'ai mis les pieds dans les flaques et je n'ai rien trouvé, mais qu'est-ce que j'attendais? J'attendais de rondes larmes dans l'eau. J'attendais de pleurer, car j'aime ça pleurer, j'aime ça. Depuis l'enfance dorée, depuis la maladie, depuis les jours meilleurs, j'avais toujours adoré le mauvais paradis qu'on trouve dans les pleurs. J'adorais mes rondes larmes dans l'eau. J'adorais invoquer l'envie de suffoquer sous mes flots, sous mes flots. J'adorais m'appeler fontaine d'eau salée, vase clos, vase clos. Je voulais une
chagrin doux de mer, un radeau.
De larmes, Jeanne Chéral qui est avec nous sur RFI et des larmes, il y en a quelques-unes dans ce livre. À 5 ans je suis devenu terre à terre que vous publiez Jeanne Chéral chez Point, quand vous évoquez votre parrain décédé hein, qui souffrait d'hydrocéphalie, un moment très très émouvant, et c'est vrai qu'on est en empathie avec vous là aussi, vous aimez beaucoup le mot, le mot empathie, on en manque d'ailleurs d'empathie dans ce monde, vous trouvez pas?
Oh bah oui, c'est quelque chose qui est pas forcément bien vu, parce que c'est comme la gentillesse quoi, c'est des valeurs qui sont pas forcément très à la mode, mais pour moi c'est tellement la base quoi, d'être en empathie les uns avec les autres.
Oui, donc il y a effectivement des moments très émouvants, il y a aussi des larmes. D'ailleurs il y a un mot que vous avez choisi de mettre en valeur, alors là ça m'a beaucoup étonné, c'est le mot chiale. Alors c'est pas chialer, hein, c'est la chiale. Et ouais. La chiale, c'est pas la même chose que les larmes, c'est pas la même chose que les pleurs. Une bonne chiale, eh ben, devant un spectacle, par exemple, c'est un moment important. C'est un moment presque savoureux, sous votre plume.
Ah, mais complètement. C'est un état de grâce pour moi. Là, je peux même vous parler de ma dernière chiale artistique, parce qu'elle a deux jours, mais c'est vraiment décalé. Hein. C'est que j'ai regardé avec mon fils E.T. Et franchement, E.T., ça fonctionne à chaque fois.
Ah oui.
C'est vraiment la bonne chiale, le pleur d'émotion artistique. Et même dans E.T., c'est vachement agréable en fait d'arriver à cet état d'émotion tellement intense qu'on peut pas réprimer ses larmes, et ça fait un bien fou, je trouve.
Il vaut mieux une bonne chiale qu'un fou rire, par exemple, lorsque l'on est face à une œuvre d'art, à une chanson, à un film, à un spectacle.
Oh bah. Les deux sont merveilleux, vraiment. Les deux font partie de la vie et j'adore tellement les deux, mais je crois que je mets la chiale un tout petit peu au-dessus du fou rire.
Ronde larme, hein, qu'on entendait à l'instant, se trouve sur un album intitulé L'eau, donc L'eau E-A-U. Vous ouais. auriez pu peut-être aussi écrire L'eau avec juste la lettre O, puisque vous aimez beaucoup les homonymes aussi, c'est ce que, c'est ce que vous expliquez.
J'adore vos transitions.
Oui, c'est pas mal, mais c'est travaillé, vous
assure.
C'est
bien construit.
Ouais, et donc vous en arrivez à la lettre O.
Bravo.
La lettre O, c'est votre voyelle préférée. Alors, ouais. Je sais pas si on peut expliquer pourquoi une lettre, c'est sa préférée. Mais je vais vous poser la question quand même.
Oh, bah, c'est une question de sonorité, de graphisme. Bah, c'est évident que le O, c'est la plus belle lettre.
Pour vous, c'est évident. Mais alors, racontez-nous votre histoire d'eau, alors, si j'ose dire, jeune Chéral.
Histoire d'eau, c'est un livre que j'ai lu à un moment où j'étais en train de terminer l'écriture d'un album. Et c'est un roman qui m'a tellement marqué, qui m'a tellement impressionné, que l'album que j'étais en train de terminer s'est appelé Histoire de J, un peu en clin d'œil, en pont discret vers ce titre.
Mais vous aimez le J aussi?
Moins que le O, mais j'aime bien le J, oui.
Bien le J. Il y a un mot qui commence par O et qui n'est pas dans les 40 mots, c'est le mot oui. Par contre, il y a un mot qui commence par N et qui a même deux N et qui y est, avec un O au milieu, c'est le mot non. C'est mieux de dire non que de dire oui, jeune Chéral?
Je pense que c'est... je sais pas si c'est mieux, mais c'est plus difficile et c'est plus impactant, quoi. De savoir dire non, de poser un non, il faut de l'audace. Faut de la force. Parce qu'un oui, de toute façon, on va provoquer l'assentiment chez l'interlocuteur. Donc, alors que si on lui oppose un non, ça va être plus compliqué. Les conséquences sont plus compliquées. Mais je préfère le non au oui.
Femme varie, si elle se débat, c'est pour mieux.
Quand c'est non, extrait de l'album Histoire de J, J comme Jeanne, Jeanne Chéral, album sorti en 2014. On était donc bien avant la vague hashtag MeToo, chanson que vous avez partagée avec le cœur des Françoises. Alors les Françoises, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est ce collectif éphémère. Il y avait Olivia Ruiz, il y avait la grande Sophie, Émilie Loiseau, Camille et Rosemary, la chanteuse de Moriarty, qui nous amène, Jeanne Chéral, à l'un de vos mots préférés, c'est le mot féministe.
Bah oui, c'est un mot magnifique, un mot très fort.
Un mot qui a tout, écrivez-vous, le panache, la profondeur, une graphie à l'élégance fuselée et une charge historique qui lui donne sa noblesse. Mot splendide, écrivez-vous, parce qu'il est entier. Mais tout le monde n'a pas la même définition du féminisme, jeune Chéral, quelle est la vôtre ?
Oh bah la mienne, c'est déjà de se sentir en solidarité et en empathie, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec les femmes, et puis c'est de vouloir revendiquer, déjà c'est d'être consciente qu'il y a des choses à changer. Je pense que la base du féminisme, elle est quand même dans cette prise de conscience que le fait d'être une femme, c'est partir forcément dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui avec c'est pas un joli mot, mais avec quelques handicaps sociaux, quoi. C'est être consciente de ça et faire en sorte de marcher sur ces handicaps, de les anéantir, quoi.
Écrire un chapitre sur les règles et même faire une chanson sur les règles, comme vous l'avez fait avec 12 fois par an, c'est un acte féministe.
J'ai pas eu l'impression que c'en était un quand j'ai écrit cette chanson il y a assez longtemps maintenant, mais il se trouve que si, puisque les règles, c'est encore quelque chose qui peut dégoûter certaines personnes c'est un phénomène physique qui est considéré parfois comme quelque chose d'ignoble, d'indigne, d'impur. Il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent ça, alors que pour moi, c'est quelque chose de tellement beau, quoi. C'est quand même un flux corporel magnifique. Sans règles, pas de vie, quoi. Enfin, là, j'ai écrit une petite phrase qui me faisait marrer dans le bouquin. C'est si ta mère avait pas eu ses règles, tu serais pas là, Coco. Enfin, c'est tellement évident qu'on comprend toujours pas pourquoi en 2020. Enfin, ça commence à bouger, heureusement.
Oui, quand même.
Ça, les consciences bougent à ce niveau-là et on parle de plus en plus, par exemple, de l'endométriose, qui est une maladie qui est très répandue, qui touche énormément de femmes et qui est très très douloureuse, qui est gravissime, quoi. Et bon, c'est enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais si l'endométriose était une maladie masculine, ça ferait longtemps qu'elle serait éradiquée.
Cette chanson qu'on évoquait à l'instant, « 12 fois par an », vous la chantez beaucoup sur scène. J'ai retrouvé pas mal de vidéos où il y avait des réactions justement dans le public et beaucoup d'applaudissements. On sent effectivement qu'il y a aussi là pour le coup une empathie aussi quelque part entre la salle et la scène. Et la scène, c'est un mot magique aussi, c'est un mot important, la scène, pour vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement, puisque vous employez ce terme de magique, c'est quoi la magie de la scène? Comment vous ressentez le bonheur d'être sur scène, Jeanne Chéral?
Bah déjà, la magie de la scène, c'est que... Alors moi, je suis une grande traqueuse. Je suis vraiment... je peux être paralysée par le traque. Malade physiquement, hein, vraiment. Et c'est quelque chose qui s'évapore au début d'un concert, quoi. Ça, vraiment, je...
T'as que vous entrez sur scène et tout de suite, le traque que vous avez de l'autre côté du rideau, il disparaît.
C'est pas immédiat comme ça, mais franchement, il y a quelque chose de presque d'instantané, ouais. Pendant les deux premières chansons, il y a quelque chose qui s'emballe et puis qui, mais des fois c'est beaucoup plus rapide que ça, c'est les premiers accords. Enfin voilà, le track qui disparaît, ça pour moi c'est quelque chose de magique. Et puis être sur scène, c'est livrer une version améliorée de soi-même, quoi, une version complètement presque fantasmée, et en même temps j'ai l'impression d'être de plus en plus moi-même sur scène. Quand j'ai commencé,
c'est la question que j'allais vous poser, vous jouez un rôle sur scène ou au contraire vous montrez tout ce que vous avez en vous?
Bah quand j'ai commencé, j'aimais bien faire ça, jouer des personnages, prendre des voix, des machins comme ça. Et puis bon, c'est quelque chose que j'ai perdu. Maintenant, ça fait 20 ans, au bout d'un moment, ça m'a plus amusée, mais j'aime énormément rigoler sur scène et tout, et j'ai l'impression d'être comme un moi-même qui serait mieux, quoi. Plus belle, plus, enfin, c'est même pas physique, mais plus sûre d'elle, plus confiante.
Et l'échange que vous avez avec le public, avec la salle, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous avez déjà fait des concerts avec des gens masqués dans la salle?
Ouais.
Comment vous vivez ça? Comment est-ce que, justement, on peut passer des émotions à un public masqué? C'est pas si évident que ça, si.
Bah, bizarrement, là, les concerts, ça me serre un peu la gorge, là, parce que on va arrêter là, mais on a repris les concerts fin septembre et effectivement il y avait une ferveur, une joie vraiment dans le public. On accroche les regards, quoi. On accroche les regards, les gens ils chantent quand même. Enfin, c'est un public masqué qui chante. C'est quand même. J'aime bien faire de petites chorales de temps en temps, des chorales de gospel sur une chanson. Et malgré les masques, enfin, franchement, moi, très rapidement, j'ai oublié que le public était masqué, quoi, et qu'il y avait de temps en temps des places vides et tout. Enfin, ça s'oublie hyper vite.
Alors le public, les fans, c'est évidemment très important. Et pourtant, quand on vous lit, on se dit aussi que parfois il faut s'en méfier. Je sais pas si vous voyez à qui je fais allusion, à cette spectatrice très insistante qui, petit à petit, de façon très douce, très insidieuse aussi, d'une certaine façon, a pris une place absolument énorme. C'est le mot vampirisé, hein, qui titre ce chapitre.
Ouais, j'aime beaucoup ce mot. Ça fait référence à une... c'est marrant parce que c'est pas un texte que j'ai réussi à écrire à la première personne. Je l'ai vraiment décalé. J'ai pris deux personnages, quoi, la chanteuse et la spectatrice. J'ai pas réussi. Il est sorti comme ça, en tout cas. Je me suis un petit peu déplacée, mais effectivement, oui, ça fait référence à un souvenir personnel. J'avais envie de parler de ça. Je trouve que ce verbe, il est vraiment très très fort. Vampiriser, on imagine bien ce que ça donne, quoi. Quelqu'un qui prend une emprise sur vous et qui vous vide. Et au départ, ça, des fois, la bienveillance peut mener à des extrêmes très désagréables.
D'où vient cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressant? Qui roule facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'encarante. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes ou comme une audace l'insolente.
Extrait de votre dernier album, Van Chiral, un album studio. Et studio, c'est l'un des mots pour lesquels vous avez aussi du goût. Il y a la scène et puis il y a le studio. C'est complètement différent.
Ah oui, complètement différent et tellement complémentaire. C'est bête de dire ça, mais c'est comme le yin et le yang, quoi. C'est comme ces jour-nuit, je sais pas.
Donc vous avez besoin de l'équilibre des deux.
Ah oui, ouais,
pour
vraiment
pouvoir partager avec votre public. Il y a une très longue description, hein, d'un studio d'enregistrement avec à la fois des moments de bonheur et des moments de souffrance quand même. Hein. On sent quand même que c'est pas toujours facile d'enregistrer, quoi, pour vous.
Bah non, c'est pas facile parce qu'en plus, faire une prise de voix, par exemple, c'est être à poil, quoi, et c'est s'entendre. Là justement, je parle sans casque aujourd'hui.
Oui, c'est perturbant.
Ouais, mais en même temps, En même temps, comme ça, je suis pas là à m'écouter, quoi. Mais c'est ce qui peut être parfois bouleversant et hyper désagréable. Des fois, quand on chante, on s'entend au casque hyper proche, on entend sa voix intérieure et on n'est pas heureux avec ce qu'on dégage. Enfin, et puis parfois, c'est merveilleux. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais envie de raconter dans ce.
Ouais, bon, vous insistez aussi sur le fait qu'un studio, c'est un endroit d'une propreté relative.
Ah bah ça c'est sûr.
Mais c'est de votre faute, c'est de la faute des musiciens, c'est de la faute des techniciens.
Ah, on est crado.
Seriez-vous une souillon, Val Chiral, parce que souillon c'est aussi un. Alors c'est un très joli mot moi aussi je trouve hein, le mot.
Oui c'est vrai.
Le mot souillon j'aime beaucoup oui. Et pourtant
ouais.
C'est vrai que ce qu'il y a derrière est pas forcément
c'est ça,
super
ça
joli.
Ça fait pas
quoi.
Référence à ça. Oui ça fait référence à Cendrillon dans sa souillarde. J'aime bien ce mot souillon parce que c'est un mot mignon aussi. C'est t'as tout souillé, t'es souillon. C'est vraiment un mot, c'est sale, mais c'est pas très grave, quoi. C'est un peu, c'est brouillon. J'aime bien ce que ça évoque.
Oui, brouillon, pas très ordonné, hein.
Ouais,
c'est vrai qu'il faut ranger, il faut désencombrer. Là aussi, c'est un mot qui se trouve dans ce petit livre. Et quand c'est sale, quand c'est pas rangé, vous procrastinez?
Ouais, c'est un mot aussi que j'ai eu envie de mettre en avant parce que c'est un mot qui au départ, j'ai l'impression qu'il est dans le langage commun depuis pas très longtemps, depuis quelques années. Enfin, ça fait pas très très longtemps.
Oui, il est revenu à la mode, oui, c'est vrai,
voilà,
vous avez raison.
Il est revenu à la mode.
Oui.
Et si on connaît pas tellement le sens, on peut vraiment imaginer plein de choses différentes. C'est ce que je trouve merveilleux aussi dans la langue française, c'est qu'il y a des mots procrastiner, on peut vraiment imaginer que c'est je sais pas moi gratter la terre avec une binette ou alors procrastiner, ça peut être comploter dans un endroit sombre, ça peut être plein de trucs. Enfin, j'ai donné d'autres exemples dans le texte mais j'adore ce verbe qui paraît avoir des pouvoirs magiques.
Oui.
Et la différence, enfin l'écart entre ces sonorités là et puis ce qui veut dire voilà tout mou et tout reporté au lendemain, enfin il y a vraiment un écart hyper intéressant je trouve.
Bon, alors je crois même qu'il y a une journée mondiale de la procrastination mais j'ai pas la date en tête, je vous dirai demain ou après-demain peut-être.
Ça doit être aujourd'hui.
Je sais pas. Bon, en tout cas, à propos du studio, donc là on est dans un studio de radio hein, on est
bien
d'accord.
C'est
très propre, ça a été désinfecté.
Ouais, hein. Ouais, on sent, c'est nickel.
Covid oblige. Alors, je sais pas si elle a été nettoyée avec un ramasse-bourrier. Alors là, j'avoue que je connaissais absolument pas ce mot-là. C'est vraiment un mot que j'ai appris en vous lisant, Van Chiral. C'est quoi un ramasse-bourrier? C'est très joli, d'ailleurs.
Ramasse-bourrier, tout simplement, c'est une pelle à poussière. Peut-être avec sa balayette, je suis pas sûre. Je pense que le ramasse-bourrier, c'est vraiment l'appel à poussière. C'est l'appel qui ramasse le bourrier, quoi. Le bourrier, le tas de... Je pense qu'au départ, c'est plutôt un tas de cendres dans les fermes. Dans les fermes du pays de la Mée, là d'où je viens. J'aime bien ce mot parce qu'il est très, très local. Il est très géographiquement situé.
Alors, le pays de la Mée, on peut peut-être expliquer, c'est donc en Loire-Atlantique, donc du côté de... C'est au nord-est de Nantes, c'est ça? C'est à peu près du côté
Châteaubriant.
Avec un T,
ouais. Et c'est un tout petit, enfin, on dit un pays, quoi. C'est tout ce qui échappe au classement administratif. C'est pas une région, c'est pas un département, c'est pas un canton, c'est pas une commune. C'est un pays, quoi. On sait pas trop d'où ça vient, cette classification, mais c'est comme ça. Pays de la Mée, terre du milieu.
Voilà, pays de la Mée, terre du milieu, et c'est là qu'on utilise donc un ramasse-bourrier. Pas facile à caser dans une chanson, ramasse-bourrier, mais.
Non, j'ai essayé.
Vous avez essayé.
Il a fini dans mon livre parce que je lui trouvais pas de place dans une chanson.
Eh ben, c'est un joli défi, en tout cas. Peut-être allez-vous le relever un jour.
J'ai pas dit mon dernier mot.
Merci beaucoup, Van Chiral, d'être passé
nous
voir.
Merci à vous.
Quand je suis devenu terre à terre aux éditions Point.
Bonjour Alain.
Bonjour Jean-François.
Claque-moi la bise sur la boîte à bulles, fais-moi taire, empêche-moi de faire des phylactères comme un chat qui chatte dans les airs. Emballe-moi avant que s'emballe ma boîte à camembert. Faut que j'arrête de tcha-tcha-tcha-tcha. J'arrête de tcha-tcha-tcha-tcha. Faut que j'arrête de tcha-tcha-tcha-tcha.
Tcha-tcha-tcha-tcha, la caravane passe dans VMDN sur RFI, Alain.
Elle passe partout, ça a commencé par les pays d'Europe de l'Est, puis régulièrement en Asie, Jean-François, notamment au Japon, au Moyen-Orient.
Alors c'est un quintet, un casque qui réunit ses membres.
Mais tous les cinq sont animés par l'amour de toutes les musiques. Dès qu'un concert est fini, ils vont écouter des musiques traditionnelles, ils vont acheter des instruments, ils apprennent si possible sur place à en jouer et rencontrent des musiciens locaux. Du coup, leurs horizons musicaux se sont de plus en plus ouverts.
Comment est-ce qu'ils conçoivent leurs disques ?
Tout simplement comme des livres. J'ai donc demandé à Thomas Fetterman, fondateur du groupe, ce qu'il aurait écrit en quatrième de couverture pour présenter ce Nomadic Spirit.
C'est tout à fait vrai, je conçois les disques comme des livres et je trouve ça très dommage. Tiens d'abord à dire que je trouve ça très dommage cette mode de sortir des titres isolés et de dire les albums c'est terminé. Pour moi c'est comme dire les livres c'est terminé, les pièces de théâtre c'est terminé, il n'y a plus que des phrases, il n'y a plus que des vers. Voilà, c'est vrai que j'aime bien les albums thématiques. Et en quatrième de couverture, qu'est-ce que je dirais de Nomadic Spirit? Je dirais ce que j'ai voulu mettre moi-même en quatrième de couverture, c'est-à-dire cet album est dédié à Rachid Taha, parce que je pense que c'est ce qui résume le mieux finalement cet album, avec aussi loin et aussi proche que de la vérité que cette.
Just move your body, get out this place, go back to your country. I like to move, I can dance like a gypsy. Looking for welcoming country. In the west there, persona non grata. In the east there, persona non grata. In the south there, welcome to Africa. Enter through the exit, Nomadic Spirit.
La caravane passe, Nomadic Spirit.
Le titre qui donne son nom à l'album.
Alors Thomas Fetterman le disait, hein, Alain, ce disque est dédié donc à Rachid Taha.
Oui, alors que garde-t-il de lui ?
Ce qu'on garde de lui, je pense que c'est ce que l'humanité devrait garder de lui. C'est une grande leçon de respect, de liberté, à la fois éthique, politique et musicale. C'est-à-dire que avec Rachid, on partage vraiment cette vision de l'humanité comme un tout, de la musique comme un tout. C'est des valeurs qui sont les mêmes finalement en musique et dans la vie de tous les jours et dans les arts en général. Il est toujours présent, il est là toujours de toute façon.
La caravane passe, Requiem pour une vieille branche qui est
Feu, le père de Thomas Fetterman, Jean-François.
Alors, quels instruments trouve-t-on sur les nouvelles compositions du groupe ?
Sur ce long format, ils ont puisé dans toute cette matière musicale rapportée de leur voyage. Par exemple, Thomas a rapporté un djumbush, un instrument à cordes turc, de grandes flûtes de Serbie, une énorme flûte traversière basse. Loud, lui, a rapporté d'énormes conques de Nouvelle-Calédonie et du Japon. Et puis, il y a l'instrument historique du groupe, le fiscorn, que joue aussi Huge, une sorte d'énorme trompette catalane. Mais dans tout morceau qui se respecte, il y a ce que l'on appelle un break, un instrumental qui vient interrompre le rythme. Mais qu'est-ce qu'un bon break, Thomas ?
Très bonne question. J'aurais envie de dire qu'un bon break, c'est le break qu'on peut sampler. C'est-à-dire qu'on crée de la musique, et moi j'adore le principe du sample qui est finalement de plus en plus rare parce que évidemment il y a des histoires de droits d'auteur. Mais un bon break, c'est le moment dans une chanson où on peut prendre un petit extrait, le sampler et recréer une autre chanson avec et rapper par-dessus.
Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, yop, yop, yop.
Bivouac, la caravane passe sur l'album Nomadic Spirit, sorti chez Atom Sony Music. Merci beaucoup, Alain.
À même le sol, sans paillasson, sans welcome. À la belle étoile, sous sky, sans quatre étoiles. Je bivouac sur terre, sur bitume, dans les parterres. Je passe en scred jusqu'à Babelwood.
Dans un instant, le journal sur RFI. Prenez soin de vous, à lundi, et vous m'en direz des nouvelles.
Tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, yeah, yeah, yeah.
Oh. Je débarque dans ta case, salut à toi Navarro. Trinquez, tchao. pas j'ai le calumet amigo. Nikana pour ton canap, je m'avale sur le clic-clac. Viens avant que tu me captes, j'aurais tracé tour en autre squat.
Je quitte le bled sans breakfast, je passe les murs en breakdance. Je me mure pas, je file à l'anglaise. Je passe sans scred jusqu'à Babel Web. Tu bivouac. Tu bivouac. D'Irak au Danemark, je bivouac. En passant par les Carpates, je bivouac. Dans ton parc national, je bivouac. Sur les bancs de la fac, je bivouac. Dans les friches, dans les squats, je bivouac. En appart, en pirate, je bivouac. C'est nawak, mais je m'en tape, je bivouac. Je passe sans scred jusqu'à Babel Oued. Tu bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commette pas dans les squats. En attendant la matraque, je bivouac. J'attends pas que l'on m'attrape. Je commate pas dans les squats. Quand la matraque me traque, je passe en scred jusqu'à Babel Oued.